bonjour, bienvenue dans le goût du monde en vadrouille aujourd'hui. En plein salon du livre à Paris, dans un temple, un refuge pour les passionnés de cuisine, de récits et de recettes, voici donc rue Montmartre, celle qui mène au Louvre et à la Seine, à la librairie gourmande. Non mais quel nom pour une librairie. Bonjour Déborah. Chez et avec la libraire Déborah Dupont-Daguet, merci de nous accueillir chez vous ici, là où les cœurs, je dois le dire, des gourmands, amateurs, comme ceux des professionnels, chavirent.
Librairie gourmande, bonjour.
Allô, bonjour, la cuisine du bout du monde. Tu connais ? Ouais, appelle Déborah, elle saura exactement ce qu'il te faut. Voilà, c'est un peu ce qu'on entend généralement quand on parle de Déborah Dupont-Daguet et de sa librairie gourmande. Bonjour Esther El-Payani.
Bonjour.
Vous n'êtes pas bien loin, vous êtes venue à pied. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes journaliste, vous êtes critique gastronomique, vous êtes chercheuse, autrice. 1000 idées à la minute, on est d'accord.
Donc
on
ça
est bien.
Parle...
Et amis, ça fait des années et des années que vous vous connaissez, avec des passions communes, la cuisine et le livre évidemment. Alors ensemble, nous sommes donc à la librairie gourmande, entourée de livres, et nous allons nous poser quelques questions autour de ce livre justement, à l'heure des réseaux sociaux, des recettes minutes et de la cuisine à tout va. Qu'en est-il des livres de cuisine, objets de collection, de décoration, voyage par procuration, des trésors en héritage, que permettent-ils ? Comment est-ce que vous parleriez du livre de cuisine? C'est quoi un livre de cuisine?
Voilà, c'est très compliqué.
C'est
ça,
très vaste
comme question.
Parce
qu'en fait, il n'y a pas une définition du livre de cuisine. Déjà, un livre de cuisine, à mon sens, Estherelle, je pense, sera d'accord, un livre de cuisine, ça n'est pas uniquement un livre de recettes. Et de la même manière, pour moi, la cuisine, ce n'est pas forcément la gastronomie. Donc, on est vraiment, pour moi, livre de cuisine, j'aime bien cette terminologie parce que c'est la plus vaste et c'est celle qui, finalement, va réussir à faire rentrer un peu tout le monde dedans.
Alors, c'est à la fois un mode d'emploi pour des recettes, bien évidemment, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour de la cuisine, tous les produits, les gens qui la font. Ce que j'aime bien aussi dans le mot livre de cuisine, c'est que ça peut être l'espace de la cuisine, le lieu. Ça peut ainsi mettre tout le monde d'accord, parce que dans une cuisine, on y prépare des aliments, mais aussi on les stocke, on discute beaucoup de ce qui se fait, on fait la vaisselle. C'est aussi un lieu de vie et d'échange. Et finalement, est-ce que la cuisine, le livre de cuisine, c'est le livre pour cuisiner, mais aussi finalement le livre de tout ce qui se passe dans les cuisines.
Et de tout ce qui se mange aussi, éventuellement.
Exactement. Et ce qui se boit.
Et je vais même aller un petit peu plus loin pour reprendre ce que vient de dire Estherelle. Est-ce que c'est pas finalement le livre qui se trouve dans sa cuisine? C'est-à-dire que le livre qui est sur la table basse du salon, parce que c'est le Coffee Table Book, parce que belle photo, parce que tout ça, est-ce que c'est un livre de cuisine ou pas? Et au contraire, le carnet de recettes de notre grand-mère, qui n'est pas un livre au sens objet imprimé par un éditeur, voilà, mais c'est quelque chose qui a été manuscrit. Est-ce que les manuscrits, est-ce que les recettes compilées qu'on découpe dans des magazines, qu'on va griffonner sur un coin de table parce qu'on les aura entendues à la radio, qui vont être notées sur un post-it parce qu'on est allé dîner chez des amis et on veut absolument la recette parce que c'est trop génial? Ce qu'on compile dans un carnet, finalement, est-ce que c'est un livre?
C'est un patrimoine de cuisine familiale. Un carnet de cuisine familiale.
Ouais, après j'aime bien quand on achète des livres anciens, souvent on a jeté entre les pages un petit mot écrit, une petite note, ça j'aime bien, j'aime bien les retrouver.
Quand je rachète des bibliothèques, parce que ça nous arrive, on a aussi une activité de livres anciens, de livres de collection, je garde l'intégralité de ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est très touchant parce qu'on a bien sûr des annotations qui sont faites sur les pages, mais on a aussi plein de petits papiers qui racontent énormément de choses, parfois griffonnés sur des enveloppes. Alors en plus, on a les timbres, on a les oblitérations. Enfin, on assiste vraiment à tout un pan de vie dans des familles et c'est très touchant en fait d'avoir accès à ça.
Si on revient au livre de cuisine original, c'est peut-être celui qui ne permettait pas de cuisiner. La question que je me posais, c'est quand est-ce que ce livre qui décrivait la cuisine, la gastronomie, au sens G majuscule, quand est-ce qu'il est arrivé dans les cuisines?
Le mot gastronomie, il arrive qu'au 19e, donc le livre de cuisine, on en a dès le 14e siècle. Donc on va,
c'était des livres qui étaient presque plus des ouvrages à l'usage des intendants. En fait, l'idée, c'était plus de tenir les comptes de maison et d'être capable aussi de provisionner et de savoir comment est-ce qu'on allait tenir une maison. Mais en tout cas, le livre de cuisine tel qu'on le connaît, moi, j'ai envie de dire, on est sur l'après-Seconde Guerre mondiale.
Alors, le premier, on dit que c'est le ménager de Paris, et c'est quand même... Ah, puis voilà, y a déjà, tu vois, il y a des choses qui le premier et tout, mais on dit en langue française, en fait. En langue française, on considère que c'est le ménager de Paris, et c'est quand même à destination... c'est un homme qui est censé l'avoir écrit à destination...
Très jeune épouse.
Voilà, pour lui expliquer comment gérer son ménage. De savoir gérer les gens qui travaillent pour vous, et de pas se faire avoir quand on achète des choses au hall. En fait, hein, le ménager de Paris, on sait qu'il on est déjà dans le bon quartier pour parler de ça, en fait.
Effectivement. Absolument, tout à quelques pas d'ici, en fait.
Oui,
en réalité.
C'était le ventre de Paris, effectivement, la rue Montmartre donnait sur ce marché grouillant qui était les Halles.
Et ces premières recettes, celles qui étaient dans les livres de cuisine, qu'on trouvait dans les cuisines?
Déjà, les premières recettes, la définition d'une recette, c'est pas si évident que ça. Parce que le fait de décrire une recette avec d'abord les ingrédients et ensuite la marche à suivre, c'est une Anglaise qui l'a inventée. C'est Mrs. Beaton. C'est les premiers livres.
Et c'est très moderne.
En fait, c'est très, très... Parce qu'avant, c'était mélanger un œuf avec gros comme un œuf de beurre. J'adore les expressions.
C'était de la description.
Et une poignée de farine. Déjà, on a plusieurs problèmes. On a établir des mesures qui marchent pour tout le monde. Donc, dans le monde anglo-saxon, on avait le système de cup. Ouais. Il a eu un énorme avantage. C'est que tout le monde en avait chez soi.
Des
cups et des spoons. Ouais. Des tasses et des cuillères. En France, moi, quand j'étais enfant, et ça remonte certes au siècle dernier, on avait le verre-mesureur, et puis c'est tout. Les gens qui avaient des balances chez eux, c'était pas si fréquent. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à écrire des recettes pour le magazine Elle, dans les années 2005, on n'avait pas toujours... Dès qu'on était sur des grammes, on recevait des lettres de lectrices qui disaient « mais on n'a pas des balances et tout ». La mode de la pâtisserie a fait que les balances de cuisine sont rentrées vraiment dans les cuisines.
Ce qu'on veut dire aussi par balance, c'est balance digitale
précise. Je suis désolée, mais ça date du début des années 2000.
Oui, parce que quand on dit pâtisserie dit précision, forcément.
Donc en grammes, donc on a gagné sur l'ensemble de toutes les recettes à avoir des grammes, mais il faut d'abord avoir l'ustensile chez soi.
Parce que les cups, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que selon la manière dont vous allez tasser votre farine ou votre sucre à l'intérieur de votre cup, je crois qu'il y a le taux, enfin, on a un plus ou moins 20%.
Et cependant, on arrivait à s'en sortir avec trois cups et tout
ça. Pour les gâteaux ménagers.
D'accord, on savait.
Oui, pour les gâteaux. Aussi le style des gâteaux américains versus la pâte à choux française. Ça peut avoir joué un impact. Ça pardonne beaucoup plus un carrot cake, 20 grammes de farine de plus ou de moins. Sur un carrot cake, c'est assez mineur.
Voilà.
Sur une pâte à choux, elle va pas lever. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de mode. Est-ce que les livres de cuisine suivent des modes?
Oui, les livres de cuisine suivent indéniablement des modes, mais alors c'est flagrant. Alors c'est flagrant sur alors toutes les questions déjà d'électroménager, c'est-à-dire que et là on peut remonter à quand même très très loin. Françoise Bernard.
Alors Françoise Bernard, de ce côté-ci du monde, on connaît très très bien. C'est un des premiers livres de cuisine qu'on a trouvé dans les cuisines.
On est sur des millions d'exemplaires vendus. Hein. C'est-à-dire, c'était selon les familles, on était Françoise Bernard ou Ginette Mathiot. Mais Françoise Bernard est à la base quand même une invention, puisqu'elle ne s'appelait pas du tout Françoise Bernard. Elle s'appelait André. Et l'idée, ça avait été d'incarner la ménagère française avec des recettes et des livres pour la marque Seb. L'idée, c'était de pouvoir mieux vendre les premiers ustensiles, les premiers appareils d'électroménager, et donc d'adjoindre du livre de recettes. Première mode, on veut vendre de la cocotte minute, on va faire un livre avec des recettes de cocotte minute pour permettre de savoir ce qu'on en fait. On prend en 2024... je suis submergée de livres sur l'air fryer, la fameuse friteuse
à air.
À air, sans... Enfin, voilà.
Et il y a 4 ans, t'avais les robots, les Cookéo, les robots qui cuisent tout seuls. Ça a été la vague précédente.
Et puis j'ai eu les yaourtières, j'ai eu les sorbetières, j'ai eu les machines à pain.
Les extracteurs de jus.
On se rend compte qu'il y a quand même donc, déjà toute cette
thématique-là. Objet promotionnel, le livre de cuisine en tant qu'objet promotionnel.
Ça va plus loin
d'emploi. C'est entre le mode d'emploi et tout ce que vous pouvez faire avec mon merveilleux
outil. Par mode, j'entendais. Vous avez dit mode pâtisserie.
Non, mais justement, il y a d'autres modes. Il y a effectivement la mode alors liée à l'explosion des émissions télé. Alors là, il faut avouer que la pâtisserie a débarqué grâce au succès des émissions télé qui ont montré alors d'abord des professionnels, puis des amateurs faire des choses absolument incroyables et tout le monde a voulu se l'approprier. Donc les livres de pâtisserie, on va dire des 10 dernières années, sont clairement liés à ça et c'est effectivement une mode. Alors est-ce que ça va se dégonfler? Est-ce que ça va exploser? Est-ce que ça va gentiment redescendre? Ça, on verra. Mais là, je pense que le marché est quasi à saturation. Cuisine du monde, on voit aussi des modes. C'est-à-dire que on a des zones géographiques qui n'existaient pas, non pas parce que la cuisine n'était pas intéressante, mais parce que ça n'était pas des zones touristiques suffisamment importantes pour justifier que les éditeurs prennent le risque de sortir des livres à 5000 exemplaires. Et puis alors en ce moment, on est dans les influenceurs.
Oui.
Alors là, faut être honnête, c'est une mode liée à la volonté de certains éditeurs de se dire on va faire des ventes faciles, c'est-à-dire que la personne a 300 000 followers sur TikTok. Bon, bah donc on devrait avoir un taux de conversion pas dégueu, il va bien se vendre. Alors ce qui ne fonctionne d'ailleurs pas la plupart du temps.
C'est pas systématique, c'est pas du tout automatique.
Ouais. Non, parce que on peut être abonné de manière gratuite à une chaîne YouTube, TikTok, sur Instagram, et suivre quelqu'un, et le like, c'est gratuit. Hein. Passer en conversion payante, d'acheter un livre 15, 20, 30 euros pour réellement appliquer à la maison, on est quand même sur une autre démarche. Et on se rend compte que ça ne suit pas. Donc voilà, les modes, on est comme dans tout secteur, comme dans le vêtement, comme dans le maquillage, comme dans tout secteur consumériste, à savoir, les éditeurs sont effectivement à l'affût de ce qui est susceptible de se vendre. Alors ensuite, ça ne marche pas toujours. Mais oui, c'est un secteur qui, malheureusement, est trop soumis aux modes, à mon goût.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Après avoir fait la cuisine du monde, il y a un pan du monde qui n'était pas sur les rayonnages. Je vous propose d'écouter Alexandre Bellaola, qui dans Le Goût du Monde est arrivé un jour avec une librairie dans son chariot et nous parlait justement du livre de cuisine d'Afrique subsaharienne.
Dans les années 80, dans le rayon livre de cuisine africaine, il n'y avait qu'un seul livre. Et l'Afrique noire avait à peine une dizaine de recettes dedans. Moi, j'arrive dans la restauration vers les années 90 et je n'ai que pour référence ce seul livre qui a été édité pendant, je peux vous dire, une trentaine d'années. Rien que ces deux dernières années, il y a eu 4 nouveaux livres sur la cuisine africaine. Et avec des nouveaux chefs, la jeunesse qui arrive, avec des visions complètement différentes. Moi, je suis heureux de savoir qu'il y a des livres et les jeunes n'arrêtent pas de porter leurs différents regards. Ce qui est très intéressant, c'est que chacun traite cette cuisine avec son regard, avec son parcours, avec ses origines.
Depuis, plus de livres encore, notamment des livres de restaurants, des livres de chefs, des livres de chefs que l'on suit, des livres de pays, de découvertes culturelles.
Alors, pour moi, la cuisine, les cuisines africaines, on n'est pas dans une mode. On n'est pas sur une construction, j'ai envie de dire, artificielle et une volonté de créer un peu une thématique. Là, pour moi, on répond clairement à un besoin. Et Alexandre le dit très bien, Alexandre est client de la librairie depuis longtemps. Et c'est vrai que dès que j'ai un nouveau livre de cuisine sur une cuisine, on va dire, africaine, je lui mets de côté, je l'appelle, je lui mets un petit message en lui disant « Tiens, il y a un livre, je pense que ça peut t'intéresser ». Pour moi, l'Afrique, on n'est pas encore dans une mode. Maintenant, quand je vois qu'on commence à avoir des festivals, des choses comme ça, je me dis que la mode va sans doute arriver sur 2025. C'est-à-dire que là, on est dans les prémices. On n'est plus sur une vraie démarche éditoriale sérieuse, intéressante, avec des auteurs qu'on est allé chercher. Enfin, quand je vois Georgiana sur le Bénin.
Georgiana View, oui.
Oui, et on est sur des livres qui sont quand même des livres pas forcément très accessibles à l'ultra grand public. Hein. On n'est pas dans le marketing forcené. Pour l'instant, enfin voilà, pour le moment, à mon sens, en tout cas, on n'est pas sur une mode. Maintenant, j'attends la déferlante d'ici 1 ou 2 ans.
Il y a eu le livre d'Anto Cocagne.
Oui, mais on a aussi des prémices, parce que je pense au livre d'Anan Abdelli, Goût d'Algérie, sur la cuisine algérienne, qui s'est hyper bien vendu. Elle a passé les 7000 ex, elle me disait. C'est une bonne vente. Il n'y avait pas grand-chose sur la cuisine algérienne. Et il est d'une précision.
Il y avait 3-4 livres.
Voilà. Et ça a été c'est un carton, quand même.
Alors, on est, pour moi, plus que sur la mode. On est aussi sur... et c'était d'ailleurs la démarche d'Anan quand elle s'est tournée vers la cuisine. On est aussi sur une génération qui n'a pas forcément appris à cuisiner avec les parents. Les liens commencent aussi à se distendre avec les grands-parents qui sont restés au pays. Et c'est un retour aux sources. Donc, pour le moment, on est encore sur des livres assez identitaires et communautaires. C'est pour ça que je ne parle pas de mode pour le moment sur les cuisines africaines, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. On n'a pas encore cette déferlante grand public.
Mais muti matena ntanguanji kana tungriko ni babe kateketa tungu cheko mbolungo mbesa kana zebeleko ni mebe kajafuna pini yanti menezengo so ntama lundi nilanga tiamu kalule
Congolais Freddy Massamba sur RFI, c'est l'album Transcestral, sélectionné et mitonné par l'équipe de la playlist de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde en vadrouille et le nez dans les livres de cuisine à la librairie gourmande à Paris avec Déborah Dupont-Daguet, libraire.
Libraire, effectivement.
Un beau nom.
Et autrice.
Autrice, libraire et propriétaire de ce repère incontournable des amateurs de la cuisine en livre. Et Estherelle Payani, autrice, critique gastronomique et journaliste également. Je voudrais juste qu'on jette une oreille, justement. Vous avez parlé de Hanan et Anissa Abdali, sa mère, Goût d'Algérie, leur livre, et toute l'importance, justement, d'avoir un livre objet à transmettre.
La semaine dernière, j'étais à Roné à la FNAC. Donc, je voyais toutes les caissières qui me regardent, etc. Bon, je n'ai pas fait attention. Mon mari arrive, et puis j'ai dit, tu faisais quoi? Il m'a dit, tu sais, le livre est là. Mais moi, naïvement, hein, j'ai dit, lequel? Il m'a dit, mais le livre. Et la caissière dit, mais oui, on l'avait dans le livre. Et vous voyez, je me suis retrouvée autour d'une foule de personnes qui me posaient des questions sur le livre. Et donc, ils m'ont demandé de faire l'auto...
Ah oui, l'autographe.
Enfin, oui, il m'a dit franchement, tout le monde vient voir ce livre. Vous savez, c'est ça ma fierté. Faire découvrir cette cuisine, ses racines, son pays d'origine.
Sa mémoire.
Et puis sa mémoire. Et maintenant, la transmettre à tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Vous savez, les aînés, les pieds noirs, les juifs d'Algérie, qui sont plus repartis aussi dans leur pays d'origine. Je pense qu'ils sont tellement heureux de retrouver la cuisine de leur enfance. Et ça, c'est grâce à Anne.
Anissa Abdali, qui avait son petit-fils sur les genoux quand nous avons enregistré cette émission, est-ce qu'elle n'est pas là la vocation aussi du livre de cuisine? C'est laisser des traces, écrire des recettes pour une transmission.
Oui, l'essentiel, c'est que ça ne se perde pas. Et cette histoire de transmettre pour ne pas oublier, moi, ça me... Un des livres de cuisine qui est le plus cher à mon cœur, c'est le grand livre de la cuisine juive de Claudia Roden, parce que c'est le premier livre de cuisine que j'ai lu dans mon lit comme un polar au départ, donc ça se passe après la Seconde Guerre.
Et
ce n'est
pas votre confession, c'est ça que vous m'avez dit tout de suite. J'ai pris, mais je ne suis pas...
Ce n'est pas ma confession, parce que c'est la question qu'on me pose le plus. On me dit toujours, ah ben tu aimes le grand livre de la cuisine juive parce que tu es d'origine juive, mais pas du tout en fait. Et ça n'a rien à voir avec ça, c'est un livre pour tout le monde parce qu'il raconte justement ce travail de mémoire. Claudia Roden, elle est partie tendre vraiment son micro à des gens à travers le monde pour continuer à faire exister ces cuisines qui allaient disparaître. Donc, elle a permis, enfin, ça va jusqu'aux Juifs d'Éthiopie, ça passe à Venise, ça va partout sur les cinq continents. Enfin, elle est vraiment, c'est une histoire universelle qui nous est racontée. C'est l'histoire de c'est quoi un livre de cuisine, et c'est éviter que la recette disparaisse avec la personne. Cette fameuse phrase quand vous goûtez un plat et vous dites « Ah, ça n'a pas exactement le goût de celui de ma grand-mère, pourquoi elle ne m'a pas donné sa recette ?» Bon, ma grand-mère cuisinait pas, donc c'est peut-être pour ça que moi j'aime autant les recettes de grand-mère, parce que j'ai pas eu de transmission de ce côté-là. Elle cuisinait pas du tout. Donc c'est assez rare, et c'est peut-être une histoire familiale qu'on cherche à se raconter à travers des livres de cuisine, quelque part.
Des livres de récits et de recettes.
Mais c'est de l'intime, en fait. Hein.
Non,
dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mais c'est aussi d'où tu viens, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu racontes.
Et qu'est-ce qui se trouve autour de toi? C'est Alain Chapelle qui le dit très bien dans son livre. La cuisine, c'est bien plus que des recettes. Il l'explique très bien.
Alors, ça sert aussi
moi,
beaucoup.
Moi, je l'ai apporté,
ce livre. C'est un livre de cuisine qu'adore citer les chefs, mais je dis toujours, parfois, ça sert de cache-misère pour pas apporter assez de soins à la précision des recettes qu'on donne. Ça aussi, c'est un grand débat dans les... Mais je dirais, les livres de chef, c'est un autre sujet.
C'est vraiment un autre sujet.
En fait, la problématique, c'est aussi, est-ce que l'idée, c'est qu'on puisse reproduire les recettes à la maison? Et ça ne concerne d'ailleurs pas que le livre de chef, puisqu'on se rend compte quand on interroge, en fait, les gens... Beaucoup de personnes ont énormément de livres à la maison, et quand tu leur dis mais tu fais les recettes, ah non, bah celui-là, j'ai fait deux recettes. Et en fait, faire deux ou trois recettes dans un livre, c'est la norme. C'est voilà, si tu fais plus de trois recettes dans un livre, c'est waouh, tu l'as vraiment super bien utilisé.
Donc, et ça veut dire qu'il est fiable et qu'on l'apprécie. Moi, j'ai un indice effectivement de classement des livres de cuisine. Je pense que ça fait le succès des livres d'Otto Lenghi, par exemple. C'est qu'on sait qu'on en a fait une, deux, trois, mais souvent, il y a des bouquins. Waouh, il passe cinq recettes dans un bouquin, c'est déjà un best-of.
Le livre simple d'Otto Lenghi, donc le livre avec la couverture blanche et le citron, qui a été vraiment le best-seller de ces dernières années, j'ai dû faire un tiers des recettes. Je sais très bien que si je l'ouvre, je prends une recette, elle tombera juste, ce sera bon. Une fois qu'on a le petit placard d'épicerie de base, on y arrive relativement facilement. Il y a plein d'autres livres, je les regarde et je me dis ouais, alors attends, peut-être pas aujourd'hui, parce que là je sais qu'il va falloir que je me prenne la tête, que je réfléchisse,
ça devient presque une culture culinaire, alors, en fait, c'est la manière dont on approche la cuisine dans ces livres.
Alors ça va même aussi plus loin, c'est-à-dire il y a tout un travail aussi d'écrire la recette et de la faire avec des ustensiles qui vont correspondre à la cuisine de madame tout le monde, de monsieur tout le monde. Les livres de chef, il faut un matériel que parfois on n'a pas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout un travail à faire de rendre ça accessible avec le moule à cake que tu vas trouver au supermarché du coin. Parce que si c'est le moule à cake, mais dans un matériau hyper innovant, perforé, truc-muche, machin, qui se fait sur mesure dans une boutique de pro, en fait... on n'y arrivera pas à la maison, donc on sera déçu du résultat.
Et ce sont deux autrices.
La taille des moules.
Ça, en France, on ne l'indique jamais dans les ouvrages, dans les ouvrages de chef. Oui, sauf chez Déborah.
Savoir
et
cuisiner.
Puis, quand votre livre est traduit en anglais, d'un coup, vous prenez les corrections. Et moi, c'est comme ça que j'ai corrigé les livres après. À chaque fois, elle me demandait la taille des moules. Et j'ai dit, mais je ne l'ai jamais écrit en français.
Et le matériau.
Et d'un coup, j'ai dit, mais c'est merveilleux. Alors, il y a quand même un énorme avantage. C'est que les livres, l'anglais est quand même 30% plus contracté que le français. Ce qui explique que les recettes en langue anglaise sont plus précises, tout en prenant le même encombrement de pages. Quand vous écrivez en français et que vous voulez avoir le même degré de précision, vous avez un petit coup de fil de votre éditrice qui vous dit, ça ne va pas les recettes qui font 4 pages, tu vas faire peur aux gens. Ben oui, ben je veux dire, il faut que ça ait telle couleur ou telle texture. Par exemple, c'est pas qu'une température et un temps. Parfois, il faut préciser quand il s'est passé tel ou tel truc. Parfois, c'est pour les sauces, le ketchup, c'est à l'œil ou le mafé. Tiens, il le dit très très bien, Alexandre. C'est quand quand ça se déphase, on sait que la sauce elle est bonne.
Mais c'est toute la complexité aussi de la transmission de recettes quand la transmission se fait oralement et ensuite on doit passer par l'écrit.
Eh oui.
C'est l'éternel.
C'est aussi une question de volonté des éditeurs d'accepter d'avoir des recettes effectivement racontée, précise, longue, et que l'argument ne soit plus « je vous mets 50 recettes pour 14,95 €. » C'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait peut-être moins de recettes, mais en revanche, le travail rédactionnel aura été beaucoup plus intéressant. Je fais l'analogie avec le sport à la télé, le sport à la radio. Les commentateurs sportifs à la télé sont feignants. C'est-à-dire, il part du principe que tu as l'image. tu as le support image. À la radio, on est obligé de faire un travail de description beaucoup plus précis, puisqu'il va falloir que les auditeurs arrivent à comprendre ce qu'on raconte, ils n'ont pas le support de l'image. C'est pareil pour un travail de recette, c'est-à-dire qu'on aura éventuellement du pas à pas avec peut-être 5, 6, 8 vignettes, on aura la photo finale, mais il n'y aura personne penché au-dessus de ton épaule pour te guider, il n'y aura pas ta grand-mère qui justement va te dire « bah non, il faut un petit peu plus ». Moi, ma grand-mère, typiquement la recette de pâte à crêpes, je disais « mais tu mets combien ?» Elle me disait « bah tu vois ». « Non mais mamie, je vois quoi ?»« Bah tu vois bien comment ça doit être une recette de pâte à crêpes ». Oui, effectivement, je le vois parce que je l'ai fait des dizaines de fois. Mais quand c'est la première fois, bah, tu ne vois pas. Donc, il va falloir effectivement t'expliquer.
Ça, c'est toujours la question. Tant de cuisson, on peut le calculer à peu près. Mais tant de préparation. Si vous avez fait ça toute votre vie, ça vous prend 10 minutes. Si c'est la première fois, vous allez ravager votre cuisine et ça vous met une heure.
J'aime l'idée aussi, Estherelle, Déborah, que quand on lit un livre de recettes, vous lisiez le livre de la cuisine juive comme un polar. Moi, je lisais d'autres livres comme des romans d'aventure. S'imprégner de ces histoires-là, c'est vivre la cuisine et le monde par procuration.
Ah ben, totalement. Moi, je visite tous les pays du monde sans quitter mon canapé, comme ça. On en a un petit avant-goût et puis on peut le transposer après dans sa cuisine, là où on est, en ayant piqué un geste ou autre chose. Et c'est vrai que la fonction de procuration est centrale. C'est comme on en a parlé pour la critique de restaurant. Il y a ceux qui vont lire une critique de restaurant en disant « je vais aller manger là ou là, ça m'a donné envie ». Mais il y a ceux aussi qui peuvent plus se déplacer ou qui n'ont pas les moyens et qui ont envie de savoir ce qui se passe pour se tenir au goût du jour, mais vraiment avec ce mot-là au centre. La différence par rapport à Internet, à quoi ça sert aussi un livre de cuisine, c'est que, par exemple, je pense au Coucou Zabzi.
Coucou Zabzi, donc c'est une recette iranienne avec beaucoup d'herbes et qui permet aussi de fêter le printemps.
Voilà, avec donc parfaitement de saison, avec un peu d'œuf, c'est une sorte d'omelette d'herbes qu'on peut manger chaude, froide, qui est super pratique. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce plat, si vous ne l'avez pas mangé dans un restaurant iranien, ou si vous n'avez pas par hasard ouvert un livre et tombé à cette page, vous n'allez jamais taper dans un moteur de recherche recette du coucou Zabzi. Si vous avez jamais... Donc c'est ça, il faut savoir que la recette existe pour chercher la recette. Et ça, c'est un super avantage des livres de cuisine, c'est qu'ils vont vous exposer à des choses dont vous ignorez complètement l'existence et vous les faire voir autrement. Et puis l'intention de l'auteur aussi.
L'intention de l'auteur aussi. C'est déjà la fin de cette émission.
Mais non.
Et si, ça me brise le cœur. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Merci. Déborah Dupont-Daguet, la librairie gourmande a deux adresses, une à Paris, donc rue Montmartre, et puis vous êtes également à Dijon.
Oui, à la Cité de la Gastronomie et du Vin.
Et ben voilà, Savoir Cuisiner est paru chez First.
Le petit manuel, ouais, pour savoir cuisiner, effectivement, paru chez First. Et puis, il y en
a. Les petits gâteaux, les brioches, les boulettes, les cookies de nos rêves.
Et puis, un nouveau qui paraîtra cet automne.
Ah.
Que je suis en train de terminer.
Et nous allons en goûter quoi, cette fois-ci?
Je le dirai plus tard. C'est encore un peu tôt.
Estherelle, on vous retrouve chaque semaine dans le magazine Télérama. Vient de sortir, tout juste, tout frais, tout chaud chez Alternative, un guide précieux, midi moins cher pour déjeuner à Paris. C'est malin?
Oui.
Sans se ruiner.
120 adresses pour déjeuner assis à moins de 20 euros.
Il y avait aussi la cuisine des Borestes, décidément, c'est une...
Oui, comme ça, vous pouvez regarder le pain rassis qui vous fait la gueule dans votre corbeille autrement.
On vous suit l'une et l'autre sur les réseaux sociaux. Les liens sont bien sûr sur la page du Goût du Monde, évidemment. Une recette aussi, bien sûr. On choisira laquelle? C'est sur la page du Goût du Monde, pas de panique. Estherelle, elle me regardait. Ah, là, maintenant, tout de suite.
Ouais, désobrouillée, hein, alors.
Mais un coucou Sabzi, peut-être. Et puis des conseils lecture que vous me donnerez en aparté, que je pourrais mettre sur la page du Goût du Monde. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous tous de nous écouter et de nous partager. Très bonne semaine à tous. Estherelle ?
Tout ça en général kitchen, hein ? S'il en reste, Estherelle, c'est sous la table des chefs en anglais.
Ah oui, d'accord.
Mais tu es pas sûr du tout?
Ouais, ok.